Merci.
On va partir en tournée ensemble, hein, je le sens. Tous dans la caravane. Sur les chemins de la Bohème, par exemple.
Ça se passe pas du tout.
Radio Libertaire.
Je suis descendu en speed, arrivé en bas.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment chaque mercredi matin, de 9h30 à 10h30. Bonjour, et aujourd'hui je reçois le collectif Démocratie. Alors, Lou,
Capucine
et Antoine, bonjour à vous trois.
Bonjour.
Alors, vous êtes à Montreuil et vous avez une activité, donc, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est de l'auto-support? Est-ce que c'est du soin, enfin, vers le rétablissement? Présentez-vous, voilà.
Du coup, moi, c'est Maréchal Tointoin, fidèle sujet de Fatia Ier, impératrice de Démocratie et ministre de la Propagande.
Je vois que c'est une structure très hiérarchisée.
C'est extrêmement hiérarchisé, c'est pour ça qu'on s'est appelé Démocratie. Et du coup, on pourrait se définir comme un collectif qui comprend des fous, des folles, usagers de psy et des professionnels... fou, folle, et tout ça un peu en réaction au système psychiatrique, et avec l'idée que on a envie de créer nos propres outils parce qu'on s'y retrouve pas. On pense qu'on peut faire autrement et développer le rétablissement, l'émancipation par nous-mêmes. Et on fait aussi plein d'autres trucs.
Ouais, moi, il y a un terme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est activisme communautaire. Et je pense que ça nous définit bien, parce que du coup, on a un angle à la fois, on a des groupes de parole, on fait des affiches, des collages. On a plein on essaye de se renseigner, on a plein d'angles. On essaye de prendre autour de cette question de la psychiatrie qui en fait est vaste, hein, je pense.
Oui.
Mais il y a un côté activisme et il y a un côté soin communautaire, je dirais. Voilà. Autant pour les usagers, mais je dirais les survivants de la psychiatrie, mais en fait on est tous un peu survivants, qu'on soit anciens patients. Ou ancien soignant, ou encore soignant, ou encore patient. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous lui en voulez tellement à la psychiatrie? Qu'est-ce qu'elle...
Oh là là. On lui en veut beaucoup, quand même.
Oui. Pourquoi? Ouais.
Alors, par quoi je pourrais commencer, moi? Le système psychiatrique s'inscrit dans un système capitaliste, déjà. Donc, moi, ma première pensée... En fait, la première pensée qui m'a fait me sortir un peu du système psychiatrique, c'est que je me suis rendu compte que... on vivait quand même... Enfin, comment dire, que les psys n'avaient pas de pensée politique. Donc, étaient complètement... immergés dans un système qu'ils reproduisent et qui n'est pas au bénéfice des usagers ou patients ou... voilà, donc souvent, enfin moi j'ai été confronté à l'errance médicale par exemple.
Oui.
Alors on a un peu, soit on se fait diagnostiquer très rapidement, soit on se fait pas du tout diagnostiquer, et du coup ça pose la question du diagnostic, mais en fait une fois qu'on est diagnostiqué, on se rend compte que la question du diagnostic est pas si importante. La question, c'est en fait comment on se soigne. Et là, on se retrouve face au système psychiatrique qui, en fait, ne nous soigne pas et nous rend tous malades, je pense, autant travailleurs que usagers de la psychiatrie.
Il y a un double tranchant du diagnostic, en fait. Il y a quelque chose dans lequel on peut se reconnaître, et en même temps, il y a un côté stigmatisant.
Ouais, mais je pense qu'en fait, moi, ce que j'étais en train de me dire, c'est... comment dire, j'allais dire... avant d'être diagnostiqué, on est quand même fou.
Voilà, oui, il y a quelque chose au départ.
Il y a quand même quelque chose, ouais. Donc... on est quand même déterminé avant de se faire diagnostiquer. Maintenant, une fois qu'on a le diagnostic, alors il peut être utile sur certains points, déjà parce que des fois on n'a pas envie de, déjà pour se faire reconnaître socialement. Socialement, des fois on a juste envie de dire bah voilà, j'ai ça, laissez-moi tranquille, ou j'ai ça, ça justifie qu'on me prenne pas la tête. Et où des fois c'est j'ai aussi parlé à des gens qui me disaient bah c'est comme faire un coming out, quoi, dire qu'on est schizophrène, c'est pas évident. Mais en fait le diagnostic aussi, bah au niveau médical, ça va déterminer ce qu'on va te donner comme médicament. Maintenant après moi je sais que je me suis fait diagnostiquer pour la MDPH pour avoir accès aux aides. Mais en soi, on n'est pas obligé d'être diagnostiqué pour avoir accès à la MDPH. Maintenant, dans les faits, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un diagnostic pour avoir les bonnes aides? Je ne sais pas. Ça dépend du psychiatre qu'on a en face de nous. Et c'est bien ça le problème. Parce que, en fait, d'un psychiatre à un autre, on peut pas savoir... si on va se faire aider ou foutre dans la merde d'autant plus.
Voilà, d'accord.
Ouais, je voulais revenir sur qu'est-ce qu'on lui en veut à la psychiatrie.
Oui.
Et en préparant l'émission ce matin dans ma douche, dans ma tête, je me suis refait le fil un peu de la genèse de Démocratie. Et nous, on est aussi après le Covid. Et je me faisais la réflexion que ce moment-là, Covid, avec les confinements, c'était un hôpital psychiatrique à l'échelle du pays, où on a enfermé les gens, et il fallait un papier pour sortir. Alors ceux qui sont passés par la psy, ils voient de quoi je parle. Et si tu faisais pas ton injection, c'est-à-dire le vaccin, t'étais très dangereux, et voilà. Et je trouve qu'il y avait un parallèle évident. Enfin, ça m'a sauté aux yeux quand je me suis fait la réflexion.
Une analogie, ouais.
Ouais. Et du coup, c'était aussi de dire quand nous on est quelques-uns à Vitry, soignants et usagers, c'est de dire mais en fait ils sont plus du tout capable de gérer et de produire de soins de manière intelligente, et c'est du voilà, à part être coercitif, concentrationnaire, disciplinaire, ça produit rien d'intéressant, quoi. Et il est temps que nous on s'en occupe, en fait. Et c'est pour ça Démocratie aussi, dans l'idée que On allait imposer un peu dans le débat la question du soin démocratique, et que ça pouvait partir de là, parce que peut-être parler du soin autogestionnaire, bah peut-être les gens de Radio Libertaire ça leur parle, mais je suis pas sûr que ça parle à tout le monde, et on voulait embrasser un peu large voilà.
Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le confinement, parce que moi je pense que ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser, le confinement, ça a créé plein de souffrances psychiques, de type, la solitude, par exemple, où en fait aujourd'hui on a une grosse crise de, je dirais, de post-confinement, de gens qui ne savent plus trop où se mettre, qui n'arrivent plus trop à sortir de chez eux. Et du coup, je trouve ça un peu marrant parce que, c'est vrai que y a toute cette question. Nous, notre grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sort de l'hôpital? C'est quand même une grosse question en psy. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on sort du confinement, quoi. Alors, ça concerne tout le monde maintenant, et ça trouble tout le monde. Tout le monde est troublé au sens.
Mais moi, j'ai l'impression que pendant ce moment-là, t'avais des gens qui, des mecs qui commençaient à taper sur leur femme, taper sur leur gosse. Nous, on a en psychiatrie, les jeunes, ils arrivaient par cœur entier, tellement ils étaient mal, et que à aucun moment il y a eu de réaction, quoi. On continuait, ouais. On continuait à mettre en place.
Mais en fait, moi, ma pensée, c'est que on est arrivé à un moment où en psychiatrie. Mais je pense que c'est spécifique à la psychiatrie parce que ça tourne autour de l'esprit, mais on cherche pas à soigner les gens, on cherche à les rendre fonctionnels. La première chose qui arrive après, on va dire un soin basique. Après une crise ou une tentative de suicide, c'est bon, comment on va faire? Moi j'ai été très jeune hospitalisé. La première question c'était comment on va remettre cette personne à l'école. Mais en fait, quand on est adulte, c'est la même chose. Comment on va faire pour que cette personne travaille? Donc en fait, on est dans une espèce de truc. C'est pour ça que je parlais de fonctionnement capitaliste. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est qu'on n'essaye pas de rendre les gens, de soigner les gens, on essaye de les rendre fonctionnels. Sauf que en fait, à force de faire ça, on a des gens qui ne sont jamais vraiment soignés. Pire, qui développent d'autres symptômes et qui passent leur vie à faire le yo-yo hôpital, sortie de l'hôpital, travail, hôpital, sortie de l'hôpital, travail, jusqu'à ce qu'ils n'y arrivent plus, quoi. Ou qu'ils n'y arrivent jamais, parce qu'il y a des gens qui ne sont juste pas aptes à travailler, et ça, c'est l'angoisse même du capital.
Effectivement, c'est comment sortir de notre condition d'outil de production du capital et aussi comment se dire, c'est une discussion qu'on a souvent avec Démocratie, c'est est-ce que c'est pas normal d'être inadapté à un système qui de toute façon est oppressant? Et quand on subit des couches d'oppression différentes et qui s'ajoutent les unes aux autres, quand on est une personne racisée dans les quartiers populaires par exemple, ce qui est le cas de la majorité des membres de Démocratie en fait, c'est normal en fait de pas aller bien dans ce système là
bien sûr.
Et que peut-être la folie ou en tout cas la souffrance psy est un symptôme très adapté pour obtenir une réaction ou un sursaut de survie et d'un mécanisme de défense face au système. Et maintenant, qu'est-ce qu'on crée avec ce sursaut?
Ben ouais, moi c'est ce qui m'a frappé avec le... Enfin, j'ai pas encore tellement lu ce qu'a fait le SPK, mais faire d'une maladie une arme, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai des amis aujourd'hui qui ne vivent que de la hache et qui ne travaillent pas. Alors bon, c'est vaut mieux pas vivre à Paris. Hein.
Alors tu as fait référence au SPK, faire de la maladie une arme. C'est un mouvement qui avait existé en Allemagne dans les années 70. C'est 1970. C'est le texte. Ils ont produit un texte intitulé « Texte d'agitation du collectif socialiste de patients à l'université de Heidelberg ».
On va te le piquer, celui-là.
Eh ben, je veux bien vous le prêter, de toute façon. Et voilà. Et donc, c'était bon, un groupe très... assez marxiste, avec un discours marxiste, et dont on pourrait lire quelques extraits au cours de nos émissions futures, éventuellement.
Bah, en tout cas, il y a une... pour faire les marxistes, c'est vrai qu'il y a une question matérielle dans... ce qu'on appelle les malades, quoi. C'est-à-dire que les malades sont improductifs. Donc, qu'est-ce qu'on en fait dans un système capitaliste? Et moi, je disais à mon pote qui du coup vit de la hache et ne sort pas de chez lui, je lui disais, bah, tu fais de la résistance passive.
Moi, je suis pas pour dire que les malades sont improductifs. Je pense qu'ils produisent, mais pas au sens capitaliste, quoi.
C'est ça, bien sûr. Comment,
parce que j'avais souvent ce truc de dire en psy, même les fous, ils travaillent, ils produisent du soin, parce qu'il y a l'entraide, il y a toutes ces questions-là, de père aidant, ce qui est nié.
Bien sûr.
Et puis en plus, ils font tourner la boutique. Voilà. Mais s'ils sont pas là, les soignants, ils produisent pas, etc.
Alors, je vais quand même vous lire un extrait, parce que j'en ai trouvé un. Alors, voilà. Par la maladie et à travers le statut de patient, l'individu fait l'expérience pressante et focalisée de son rôle absolu d'objet dans son isolement, son désarmement et son absence de droit. Son incapacité d'agir devient certitude sensible dans son besoin de traitement. La tâche essentielle du médecin comme agent des rapports sociaux existants dans la situation thérapeutique consiste à déterminer continuellement et sans faille le rapport médecin-patient en constituant chez le patient le besoin de traitement. Voilà, donc la manière dont, est ancré et organisé institutionnellement le rapport médecin-malade, comme nous venons de l'exposer, garantit donc la répression permanente du moment progressif de la maladie, la protestation, et de sa matérialisation, la résistance. Cela garantit le maintien du rôle d'objet pathogène dans les stades aigus de la maladie. Voilà, donc...
C'est intéressant que ce petit passage, moi ça me fait penser au fait que alors c'est des blagues de disons que c'est des blagues d'usagers, mais avec justement le même ami, ben moi je disais je considère mon psychiatre comme mon dealer.
Oui.
Alors lui il me disait c'est un peu comme un ex toxique. Dans le sens où on est un peu en fait on est dépendant. On est dépendant du psychiatre si on a besoin d'une médication. Et en plus, le psychiatre n'est pas en moyen, à l'heure actuellement, de réfléchir une mise... de réfléchir la fin de cette médication.
Tout à fait, oui, oui.
Donc, on est toujours dépendant du psychiatre.
On voit bien qu'en France, en tout cas... La question du sevrage ou de cesser le traitement psychiatrique n'est pas du tout présenté, quoi.
Non.
Pas du tout, ouais.
Non, donc c'est comme un dealer, quoi. C'est-à-dire que il vous donne un produit et il fait en sorte que vous reveniez le chercher. Non, mais après, bon, moi, c'est ma petite blague, mais aussi, il y a cette question, et ça, c'est la grande question de... Moi, qui me dérange beaucoup, c'est que en fait, il y a que le psychiatre qui est remboursé par la sécurité sociale. Et alors bon, je sais pas ce qu'ils ont branlé pendant 10 ans de médecine, mais c'est pas grave. Mais ils ont aucune. Les trois quarts des psychiatres n'ont aucune approche psychologique. Donc et en plus, on vous dit tout le temps non, mais le médicament, c'est comme une béquille. Ok, d'accord. Mais après, parce qu'en fait, je dirais, au-delà d'un point de vue sociétal, où on est dans une question, on vit dans une société capitaliste, ça c'est un fait, donc il va falloir tous se la taper, qu'on soit, qu'on soit psychiatrisé ou non. Mais on a tous, je pense qu'on a besoin d'un soin psychologique. Et ça, déjà, c'est pas remboursé par la Sécu, donc bonne chance. Donc c'est là que le soin communautaire est très intéressant et devrait être développé. Et d'ailleurs, ce que j'allais dire, ça me fait penser à ça, parce que le même ami dont je parlais tout à l'heure, lui, il a passé... Moi, j'ai fui très vite le milieu hospitalier. J'ai fui très vite, je dis ça, mais j'ai fui le milieu hospitalier au bout de peut-être 6-7 ans. Lui, il a passé 10 ans dans ce milieu-là, et je lui ai demandé un peu quel était son ressenti après 10 ans à passer de structure en structure, et il m'a dit au final, les psychiatres et les soignants, en fait, en général, étaient un peu le décor, et l'entraide, elle est venue des patients en eux-mêmes. En fait, dans son contexte, parce qu'il me disait, je me souviens de soir où on mangeait au réfectoire, on rigolait bien. Je lui disais, vous rigoliez bien à l'hôpital. En fait, ils rigolaient bien entre patients, parce que au bout d'un moment, on développe des amitiés, on développe une entraide qui est propre aux gens qui vivent l'enfermement psychiatrique et toutes ces choses-là. Donc voilà.
Ouais, non, je voulais rebondir sur le fait que tu demandais ta première question, c'était qu'est-ce qu'on faisait à Démocratie. Oui. Et nous, on essaie de faire du développement collectif versus développement personnel. Et on pense que le soin, il est collectif. Et si on veut qu'il soit émancipateur, il passe par la communauté et le collectif. Et on a l'aboutissement un peu de cette pensée-là, elle s'incarne dans la CASA qui vient de s'ouvrir. Et voilà, où on propose des choses, du soin communautaire. Je laisse la parole peut-être à Capucine, si tu veux en parler.
Oui, en fait, la CASA, elle est partie d'une envie et d'un souhait mais aussi et surtout d'un constat, en fait, puisqu'on travaille en collaboration, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on est une ramification du collectif Le Hangar à Montreuil, oui. Qui a un mode opératoire de réquisition des bâtiments pour créer des projets d'éducation populaire et de solidarité à Montreuil, pour lutter aussi contre la gentrification. Et c'est grâce à ce collectif du Hangar qu'on a pu aussi lancer Démocratie et qu'on est encore hébergé actuellement. Et donc dans le nouveau bâtiment du Hangar qu'on occupe depuis 6 mois environ, il y a des ateliers d'artistes, mais il y a aussi différents collectifs qui sont hébergés. Donc il y a de la cuisine pour les tantines qui faisaient à manger avant à l'ancien foyer Barra, donc qui était un foyer de travailleurs maliens historique à Montreuil et qui a été expulsé. Donc les gens avaient perdu leur hébergement, mais aussi leur source de revenus parce qu'il y avait un marché. Donc il y a un des ateliers de créateurs qui est composé de designers et menuisiers qui ont créé une cuisine pour qu'elles puissent cuisiner le matin, préparer leurs plats et garder leurs sources de revenus. Nous, cet espace-là, on l'occupe également pour le café associatif de Démocratie. Et donc on voit que de fil en aiguille, tous ensemble, en apportant chacun des compétences et du matériel et de la logistique, on répond finalement aux besoins les plus vitaux de pas mal de membres de notre communauté, que ce soit des besoins de santé ou des besoins matériels qui font que on va réussir à garder une bonne santé, qu'elle soit mentale, psychique ou mécanique. Et donc on est parti du constat un peu que cet écosystème du Hangar dans lequel on vit et on s'active depuis un an, c'est un centre de soins. Donc on est un peu parti du constat qu'on était devenu un centre de soins communautaire, un peu malgré nous, par nos pratiques en synergie. Et en partant de ce constat du fait qu'on était devenu un centre communautaire, on s'est dit, on va créer un centre de soins communautaire.
D'accord. Voilà. Par exemple, à Montreuil, comme partout à Paris, il y a des GEM, des groupes d'entraide mutuelle. Vous ne fonctionnez pas tout à fait comme un GEM?
Non.
Pas du tout même?
Non, pas du tout. Votre question? Non. les GEM, c'est des assos d'usagers chapeautés par un animateur plus des associations parraines et financées par l'ARS. C'est historiquement un truc un peu subversif puisque ça vient du rétablissement autogestionnaire développé aux États-Unis dont nous on peut éventuellement se réclamer. Mais là la différence c'est que déjà on regroupe usagers, pros, citoyens. On embrasse beaucoup plus large que le stricto santé mentale psy. Et on est dans un squat, on n'est pas financé, et on essaie de, on est quand même assez hiérarchique, quoi. Même si évidemment c'est ça n'existe pas, mais en tout cas tout le monde a, il y a quand même dans les GEM quelque chose qui se reproduit, qu'on voit dans les institutions où il y a un animateur, une animatrice. Qui drive les petits groupes. Et à quelques exceptions près, quand même, il y a des GEM assez. Je pense aux GEM de Bondy ou de Bobigny, je ne sais plus. Voilà. Mais du coup, j'ai l'impression. Et puis nous, on a vraiment une vocation à faire de la sensibilisation à faire du militantisme qui sont assez peu représentés dans les GEM aujourd'hui, quoi.
En fait, tout ce qu'on fait est dans une perspective anticapitaliste et décoloniale, et je pense que c'est l'approche décoloniale qui est peut-être particulière à Démocratie et donc à la CASA. Pour parler de la CASA, on aurait envie de fonctionner sur le modèle de la CASE de santé à Toulouse, c'est-à-dire que c'est quand même un modèle qui s'est créé pour répondre aux besoins notamment des personnes étrangères qui vivent dans les quartiers populaires et dans le cas qui est similaire à ce qu'on vit à Montreuil, c'est-à-dire dans des situations de gentrification où certaines populations sont exclues de la marche du système. Et En fait, j'ai l'impression que ce qu'on a réussi à créer, c'est aussi de prendre la situation d'exclusion du système qu'on peut vivre, que ce soit dans l'isolement parce que maltraité, parce que étant malade, ou pour différentes formes d'exclusion. En fait, cette situation d'être hors système, ben, on l'a valorisée, puisque maintenant, c'est le fait d'être hors système qui fait qu'on a cette puissance. Parce que nous, on n'attend pas de subvention. On est dans un squat, donc on ne paye pas de loyer. Et toutes les personnes avec qui on travaille et les collectifs avec qui on s'active, ben, on répond aux besoins les uns des autres sans qu'il y ait aucun échange d'argent. Et en fait, ça nous rend extrêmement puissants et libres d'être complètement hors système et d'avoir ce fonctionnement gratuit, en fait.
Tout en ayant en tête que même si voilà, on veut développer nos propres espaces, c'est qu'il faut, il faudra penser à un niveau macro, quoi. Renverser le système de santé actuel et en développer un qui soit démocratique, émancipateur, et où tout le monde y gagnera d'ailleurs, sauf les dominants.
Et pour ça, vous devez gagner en influence. Oui. Et du coup, vous participez à d'autres rendez-vous sur la santé mentale, en quelque sorte, qui peuvent se dérouler actuellement. Par exemple, il y avait le 27 février, au local de Vie Libre, à Montreuil, un conseil local de santé mentale, c'est ça ? Qui regroupe les acteurs de soins, les associations, etc., mais aussi des élus. C'est ce qui est assez paradoxal, je dirais.
Ouais. L'idée, c'est donc nous, on a participé au festival Facette. On est prêt à participer à pas mal d'événements et. L'idée, c'est d'imposer aussi nos vues dans le débat public et pas de finir en groupuscule. Où on serait dans l'entre-soi, et voilà, c'est de partager un peu nos vues et les mêmes, voire imposer un peu ces questions-là. On pense que c'est le moment de le faire, puisqu'on a vu quand pendant le Covid, c'est les médecins qui ont dirigé la France et on a vu la catastrophe. Donc on pense que c'est un coup à jouer. Et donc le conseil local de santé mentale de Montreuil, on participe à un groupe personnes concernées. Et on essaie de voir comment on peut influer sur les politiques institutionnelles. On sait bien les limites que l'exercice va avoir, mais l'idée, c'est quand même de pousser vers quelque chose d'un peu subversif. Pour l'instant, on est plutôt bien accueillis. On est en plein état de grâce. Je pense qu'on a un côté un peu exotique, un peu sympathique. Voilà, mais à terme, c'est de faire grossir les rangs et qu'il y a un maximum de monde pour qui penserait un peu les choses comme ça et de changer un peu le rapport de force. Donc il y a éventuellement avec le conseil local de santé mentale de penser la pérennisation de la CASA, d'aller aussi dans les quartiers populaires faire de la lévère sur les questions de santé mentale, entre autres. Voilà. Et on essaye aussi de réfléchir avec les autres assos concernés. Il y a aussi relancer l'idée d'une Mad Pride. Mais qui serait quand même avec une teinte politique cette fois-ci. Et pas juste les fous, ils sont pas si méchants. Et...
Tu peux expliquer ce que c'est que la Mad Pride ?
La Mad Pride, c'est la marche des fiertés pour les fous et les folles. Il y a eu des expériences qui continuent à avoir lieu dans d'autres pays. En France, à ma connaissance, ça s'est fait, ça s'est un peu cassé la gueule parce que il y avait des visions politiques qui étaient très différentes entre les assos. Et notamment l'UNAFAM, la FNAPSI, très institutionnelle, qui voulait dépolitiser un peu la Mad Pride, versus UMAPSI et d'autres qui étaient sur une d'autres vues, quoi.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, en fait, après, j'ai l'impression que moi, c'est justement un angle un peu, on peut réfléchir à un angle d'attaque entre guillemets, c'est que la psy se pense pas politique. Alors que évidemment ça l'est, mais comment dire, on a peut-être des angles dans lesquels on peut se mettre, des petits trous dans lesquels on peut s'enfiler, parce que on a l'air exotique, mais parce que ils nous pensent pas aussi politiques qu'on est peut-être, et c'est sur ça qu'il faut qu'on joue, nous, démocratie, mais je pense de manière générale dans la militance psychiatrique, parce qu'en fait moi j'ai l'impression que, alors c'est peut-être parce que je suis jeune, hein, mais j'ai l'impression que c'est une lutte émergente ou réémergente, parce qu'on peut penser à ce qui s'est passé pendant les années 70, mais en fait c'est plein de pensées politiques qui sortent un peu de partout, qui sont pas vraiment formalisées, à part moi, à part la démocratie, hein, personnellement j'ai vu que démocratie qui avait vraiment un truc on va dire politique, et c'est pour ça que j'aime bien le côté, mais c'est un truc que j'ai un peu découvert chez, ben, en me renseignant sur les Young Lords, c'est l'activisme communautaire, quoi. Et c'est vraiment un truc que je trouve qu'on retrouve chez démocratie, c'est cette idée que on est dans l'action de soins, mais on est aussi dans l'action politique en même temps. Et je me perds, je sais pas ce que je voulais dire par rapport à ça.
Alors, tu faisais référence aux Young Lords, c'est un mouvement aussi dans des années 70, mais cette fois à New York, aux États-Unis, dans le Bronx, autour de l'hôpital Lincoln. Voilà.
C'est pour. Oui, c'était les Black Panthers portoricains qui ont fait une action un peu coup de poing, où ils ont. Ils ont investi l'hôpital Lincoln, où c'était quand même une catastrophe sanitaire là-bas, puisque tu y rentrais et puis t'en mourais, quoi, d'aller te soigner là-bas, si on peut dire. Et ils ont pris d'assaut pendant 24 heures l'hôpital. Et ça a permis, donc c'était une action symbolique, hein, mais ça a permis ensuite qu'ils développent un centre de désintox autogéré. Voilà. Donc nous on a quand même bien fantasmé sur les Young Lords.
Bah après on a déjà, avec la CASA, on est déjà comment dire, il y a des actions thérapeutiques au sens comment dire, un peu matériel du terme. Mais c'est bizarre de le dire comme ça. Mais avec démocratie, on a aussi des espaces de discussion formels et plus, enfin formels et informels, avec des groupes de parole, mais aussi avec le café, où en fait, au final, on se retrouve entre personnes qui ont un vécu avec la psychiatrie. Moi, j'aime bien le terme survivant de la psychiatrie, parce qu'au final, je pense qu'on est tous survivants. Que ce soit quel que soit le côté dans lequel on s'est retrouvé dans ce milieu-là, et en fait toutes ces discussions informelles, c'est déjà ce qui existe en fait à l'hôpital, mais sauf qu'on est enfermé, quoi. Donc y a ça, et en même temps ça se mêle de questions politiques, parce que on a cet angle-là qui questionne le capitalisme, qui revient sur des pensées qui ont pu exister et que nos générations ne connaissent pas. Moi, je suis en découverte, quoi, de tout ce qu'est le SPK, les Young Lords et ce genre de choses. C'est nouveau pour moi. J'avais entendu parler de l'antipsychiatrie, mais un peu de loin, enfin des années 70, un peu de loin, parce que, en fait, c'est un mouvement qui est venu de soignants, quand même, à la base. Et c'est vrai que... on se demande toujours un peu où étaient les patients à cette période-là, quoi. À part avec le SPK, où là, il y a vraiment une présence des soignés, des patients. Et entre-temps, ça s'est un peu perdu. Et après, j'ai l'impression qu'aussi, il y a eu des avancées qui ont été faites à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, dans la psychiatrie, il y a un espèce d'aspect... non, mais on n'est pas aussi violent que ce qui pouvait se faire avant les années 70, quoi. Et c'est ce côté, moi, que j'appelle un peu fonctionnaliste, quoi. C'est-à-dire que... alors après, s'il y a des vraies violences qu'il faut dénoncer, il y a la contention, les hospitalisations sous contrainte, qui sont des vraies questions, mais il y a aussi effectivement peut-être des choses qui existaient, qui se sont comment dire, qui sont moins violentes qu'avant, mais qui ont un aspect très fonctionnaliste, c'est-à-dire que la première question qu'on se pose quand vous arrivez à aller à l'hôpital, c'est comment, comment on va vous faire travailler, comment on va vous remettre dans le système, alors que techniquement, quand on sort de l'hôpital, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on se retrouve dans une situation d'inadaptation sociale. Il y a une grosse question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait après l'hôpital? Alors là, il y a plein de trucs institutionnels qui se sont créés. Il y a, le Clubhouse, qui voulait répondre à cette question. Moi, j'ai un peu tenté le Clubhouse, et c'est pareil, c'est comment on va vous faire travailler, quoi. Où qu'on aille, on veut nous faire travailler. Alors que je pense que, comme tout le monde, le travail nous épuise. Et les gens qui ont des sensibilités psychiatriques, ben, on est plus sensible aux crises. Le travail est le premier vecteur de maladie. J'allais dire mentale, mais de maladie tout court. Donc, on y revient toujours, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment re-questionner la question du capitalisme dans les soins et dans nos vécus de psychiatriser, quoi.
Et aussi pourquoi des démocrapsies en réaction à la psychiatrie, c'est que en psychiatrie, que tu sois usager ou que tu sois professionnel, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce qu'on te dit, quoi. Et l'idée aussi à démocratie, c'est de créer les conditions de désirabilité et d'envie de bouger pour les gens. Et en fait, quand les gens arrivent à démocratie, ça commence souvent par un groupe de parole. Et très vite, c'est les gens viennent avec, ils ont envie de faire ça, quoi. Et ben vas-y, on fait ça. Et moi mon truc, c'est de faire des affiches, et donc je fais plein d'affiches. Mais on a tous avec nos envies, et en fait, collectivement, on les met en place, quoi. Et ça c'est hyper puissant, quoi, parce que du coup, on fait ce qu'on a envie. Voilà, ça c'est plutôt chouette.
Voilà, il y avait un slogan c'était en 2010, qui disait la liberté est thérapeutique.
Ouais. Oui, ah, ça c'est clair. Et puis je pense qu'aussi, la question, d'autant plus quand on vient du milieu médicalisé, se réapproprier ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, c'est un vrai travail et c'est une vraie question, parce qu'en fait, on est dépossédé de ses choix de vie, en fait. Je pense que déjà, quand on est précaire, on est dépossédé de ses choix de vie. Mais là, ça prend un aspect, en général, c'est le psychiatre qui dirige ta vie, quoi, en fait, qui dit... Enfin, déjà, ça instaure une espèce d'ambiance de méfiance constante avec le psychiatre, alors qu'on est censé tout confier au psychiatre. Donc il y a toujours cette espèce de truc où tu joues sur un, t'es sur un fil, quoi, où tu te dis qu'est-ce que je peux dire ou pas à mon psychiatre, parce que il a la possibilité de m'enfermer, mais il a aussi la possibilité de me dire je vous arrête tant de temps parce que je vois bien que vous êtes épuisé. Donc qu'est-ce que c'est, on est toujours sur un fil. Et après, il y a effectivement les gens qui sont lourdement, médicalisés. en fait, toute leur vie est régie que ce soit par exemple en hôpital de jour, où en fait on vous dit on va faire telle activité, on va travailler sur ça pour trouver tel emploi, tel machin. En fait, il y a aucun moment où on décide vraiment de ce qu'on a envie de faire et se réapproprier son autodétermination. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin et qu'on peut trouver à démocratie quand on a ces vécus là, quoi.
On va faire une petite pause avec une musique, c'est une chanson de Petra Pied de Biche.
C'est le nom d'une bière.
Eh, merci, hein, j'en ris encore. Hein. On va continuer dans la douce rigolade. Super sympa, cultivé, un art, tout ça, tout le monde m'aime bien, et y'a de quoi, je suis quelqu'un de bien, tout le monde c'est ça, je suis quelqu'un de bien, tout le monde c'est ça, cette nuit-là, elle était là, dans le lit d'à côté, autant dire dans le mien, ma queue s'est redressée, j'en avais envie, je me suis servi, j'en avais envie. Je me suis servi, j'en avais envie, je me suis servi, j'en avais envie, je me suis servi. Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer. Politique, lutte des classes, actualité. Violeur, ordure, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Alors elle s'est tue et j'ai pu la baiser. Peut-être qu'elle n'était pas d'accord tout d'abord.
Mais l'appétit vient en mangeant, c'est ce qu'on dit tout le temps.
Et puis quand même c'est bien connu, cette fille-là elle aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, ce type-là il aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, cet enfant-là aime le cul. Et puis quand même c'est bien connu, tout le monde aime le cul. Ben oui. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer. Jardinage, cuisine, cinéma expérimental. Violeur, pourriture, je n'attends rien de toi, ni de celles et ceux qui savent, ni de celles et ceux qui savent. Et t'invite encore à bouffer, et t'invite encore à causer, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était.
On est toujours sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, nous invitons le groupe Démocratie, communauté autogérée, soins autogérés, anticapitalistes et antiracistes. Antoine Lou Capucine. C'est ça. Et donc on continue à parler autour de ces thématiques, autour de la santé mentale et du rétablissement aussi, peut-être, mais aussi autour de vos actions. Alors il y a eu quelque temps de cela, en septembre 2021, les assises de la santé mentale en psychiatrie, organisées par le gouvernement, et qui ont donné lieu à 30 mesures en santé mentale, intitulé « Une ambition refondée pour la santé mentale et la psychiatrie en France ». Alors, il y a 30 mesures, donc, qui sont... je ne vais pas les citer parce que ça serait un peu trop long, en fait. Mais on voit que effectivement, en mesure 6, par exemple, renforcer le déploiement des GEM et des clubhouse, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est comme ça, en vrac... amplifier le déploiement des premiers secours en santé mentale, notamment auprès des jeunes et des enfants, faire émerger un acteur en charge de la coordination pour la santé des 3-11 ans, renforcer la maison des adolescents, développer l'offre d'accueil familial thérapeutique, renforcer les centres médico-psychologiques infanto-juvéniles, mais aussi créer le centre e-care de prise en charge et de recherche sur l'enfant, développer l'usage du numérique en santé mentale, donc on met de l'électronique dans tout ça aussi, contribuer à la création de l'Institut de Simulation Cérébrale de Paris. Donc là, on est avec aussi les neurosciences fondamentales et toutes ces organisations-là. Il y a promouvoir les infirmiers de pratique avancée en psychiatrie et santé mentale, etc. Voilà, parmi d'autres. Comment ça vous fait réagir ce genre de mesures?
Ouais, donc les politiques en cours, elles s'appuient sur des concepts tels que le rétablissement, l'empowerment, et nous, on s'en réclame, mais dans sa version autogestionnaire. Là, ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place, c'est défoncer la fonction publique. Renforcer le milieu associatif privé. Dire qu'on va répondre aux besoins de santé avec des GEM ou des clubhouse, c'est évidemment, enfin pour moi c'est une impensée quoi. Et après voilà, on voit bien que, enfin c'est quand même au premier abord ça peut donner envie quoi, de dire on va rendre le pouvoir aux usagers qu'ils soient plus citoyens et puis on va développer des équipes mobiles, ça je sais pas si tu l'as dans tes 30 mesures. Oui. Il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être séduisantes au premier abord, mais c'est fondamentalement ça remet pas en cause qu'on est on évolue là dans un système capitaliste, raciste, qui fait que ça nous détruit nos santé mentale. Et puis, en gros, c'est sortez-vous les doigts et développez. Enfin, c'est vous êtes responsable de votre établissement. Et que non, en fait, c'est une question, c'est une question collective de. Voilà, je m'arrête là.
Moi, c'est pour ça que je trouve que. Enfin, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est. C'est une société malade qui demande aux individus de la soigner.
Ouais. De s'adapter.
De s'adapter, quoi, en fait. De se soigner dans une société qui les rend malades. Enfin, qui nous rend malades. Mais en fait, c'est pour ça que moi, je préfère dire que le système est malade ou que la société est malade. Et l'individualise cette maladie et qu'elle l'approprie aux gens. Enfin, qu'elle la. Je sais pas si ça se dit. L'individualise, quoi. Mais en fait, c'est bien gentil de vouloir faire que les individus gèrent leur maladie, mais en fait, si on règle pas la cause, ça va jamais avancer, quoi. Alors moi, de cette mesure, honnêtement, je connaissais pas tout ça parce que je connais pas le fonctionnement, on va dire, le fonctionnement interne, quoi, de tout ça. Mais moi, ce que j'avais entendu, c'était du genre 3 séances de psy remboursées. Que maintenant, il y avait genre 3 séances de psy remboursées si on les demande, quoi. Alors, c'est assez absurde. Alors, si on veut, pour rentrer dans le truc de. Bon, après, ça, c'est une vision. Est-ce que c'est bien de voir un psy ou pas? Ça, chacun peut. Ça, c'est à chacun de le dire. Mais moi, je vois une psy et sur cette, par exemple, sur cette mesure, c'est complètement stupide de vouloir donner aux gens 3 séances de psy. Si tu vois un psy, c'est au minimum 1 an, je pense, hein, pour un peu avoir une évolution thérapeutique, quoi. Et ensuite, moi, le gros truc que je dis, et je le dis à chaque personne que je rencontre, si ça ne marche pas avec ton psy, fuis. Si tu sens le moindre truc bizarre, fuis. Donc, les 3 séances de psy, c'est surtout 3 séances de test pour savoir sur quel dégénéré on va tomber.
Mais en fait, après, excuse-moi, t'avais peut-être pas fini.
Non, vas-y, continue.
C'est déjà, il faut trouver les psys qui sont d'accord pour ce fonctionnement-là et qui en fait sont vraiment pas très nombreux. Et c'est comme d'habitude, sans même rentrer sur le fond du contenu, mais en fait, il y a des effets d'annonce. Et puis, dans la réalité, le manque de moyens criant et croissant d'année en année de tout le système de santé et pas seulement de la psy fait que de toute façon dans la réalité et dans les faits c'est très compliqué d'obtenir un suivi quand on n'a pas les moyens.
C'est clair et en plus on est forcé en fait le truc c'est que on est forcé d'être suivi par ce qu'on nous impose, enfin les psys et psychiatres qu'on nous impose, donc par exemple en CMP ou en hôpital. Et si vous tombez sur un mauvais psychiatre ou un mauvais psy, vous êtes dans la merde. Il y en a, moi je vous dirais à la louche, 80% qui sont mauvais. Mais moi je me dis aussi, bon, ils remettent pas en question leur propre système, donc c'est un peu compliqué si le système fonctionne mal, de faire un truc bien. Et au final, moi je pense que si on rentre dans le truc un peu systémique, machin, effectivement, on peut s'en sortir en ayant un bon psy et un bon psychiatre. Maintenant, faut trouver un bon psy et un bon psychiatre. Et si on va à l'hôpital, moi honnêtement, c'est à l'hôpital que j'ai croisé les pires psychiatres. Les psys, je m'en souviens même pas. Est-ce que j'ai vu un psy en hôpital? Je me souviens même pas. C'est dire. Et en CMP, moi je suis pas suivi par un psy en CMP, mais j'ai eu des retours qui étaient plutôt négatifs. Et tomber sur un mauvais psy, ça peut vraiment, vraiment aggraver son cas, ou un mauvais psychiatre. Moi ça m'est arrivé aussi de tomber sur des mauvais psychiatres, et qui sont même pas en CMP ou quoi, hein, qui sont reconnus ou je sais pas quoi, qui ont aggravé mon cas, quoi. Donc surtout quand on est dans une situation de détresse, on se rend pas bien compte de l'emprise que ces gens-là peuvent avoir sur nous. Et actuellement, je suis suivi en CMP, mais c'est l'autodétermination totale. C'est-à-dire que c'est moi qui dis à mon psychiatre ce que je veux comme médicament. Et il se trouve qu'il est pas chiant, mais il connaît rien de ma vie. Il fait son travail de médecin, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Donc, c'est pas lui que je vais voir si je suis en crise, quoi. Donc, moi, je me mets pas formellement contre hein, un suivi psychiatrique ou un suivi psychologique. Mais dans les faits, matériellement, justement, pour revenir à ça, surtout si on est précaire, trouver dans l'institution un suivi bénéfique, c'est très compliqué. Donc, voire impossible.
Ouais, pour revenir à la question des assises là et des politiques en cours. Oui. D'abord, il y a eu la loi HPST Bachelot qui a divisé par 3 le nombre d'hôpitaux psy et les divisé par 3 les soignants. Puisqu'on passait d'un secteur à 70 000 à 210 000 habitants. Pour compenser ça, en fait, ça vient compenser le. Pour ça, je disais qu'ils ont voulu défoncer la fonction publique.
Ah oui.
Et envoyer tout ça sur le secteur privé.
Oui, oui.
Après, sur la question des neurosciences, c'est vrai que ça fait la part belle aux neurosciences et fondamentale et assez. Assez caricatural, puisque eux ils font des recherches génétiques pour savoir la schizophrénie. Enfin voilà, c'est qu'une lecture génétique des choses. Bon, voilà, ils sont assez. Mais eux, comme ils sont très proches des milieux macronistes, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, maintenant que j'ai dit ça, quand même, moi, je suis pas complètement fermé aux apports des neurosciences, parce qu'il y a aussi des discours. Et voilà, c'était mon moment où je voulais un peu attaquer la psychothérapie institutionnelle. Je sais que on nous écoute ici, et c'est qu'il y a, voilà, les mouvements aussi subversifs qu'il y a pu y avoir en psychiatrie, qui étaient représentés par l'antipsy ou la psychothérapie institutionnelle. C'est aussi une pensée qui s'est un peu calcifiée. Qui nie aussi les apports de différents courants et qui ont perdu la bataille, quoi. Et il faut pas non, enfin voilà, l'opposition trop binaire, elle est voilà, il faut voir comment aussi on répond aux besoins et aux souffrances des personnes, quoi.
Voilà, alors très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, alors vous participez à des choses, Festival Facette, juin 2024.
On a participé l'année dernière, et là on a refait un dossier. On ne sait pas trop si on va être rappelé.
D'accord. Et quels étaient votre dernier rendez-vous important
Il y a les assises citoyennes de la santé mentale qui nous ont invités. Là, c'est en mai.
D'accord.
Il y a le Festival Facette qui serait en juin.
On vient d'écrire un super magnifique article pour la revue de l'AFEP, l'Association française des psychiatres internes.
Ouais, des internes en psychiatrie qui nous ont sollicités.
D'accord.
On devient incontournable.
C'est ça. On est les gens à connaître.
Et après, bon, ça c'est pour les rendez-vous un peu institutionnels, enfin, ce qui nous inscrit un peu dans le paysage. Mais sinon, ce qui est super intéressant, c'est toutes les personnes dans d'autres villes qui souhaitent créer des antennes de démocratie, en fait. Oui.
On a créé une charte démocratie partout, parce qu'on a été sollicité dans plein d'endroits. Des gens veulent reproduire, en tout cas s'inspirer de notre modèle. Et du coup, on les a invités à créer des démocraties partout. En avant la révolution.
Bien. Alors, il y a un lien sur lequel on peut vous croiser.
Pour l'instant, c'est uniquement notre page Instagram. Mais...
D'accord.
Et aussi notre podcast sur Spotify.
Ouais, Spotify Potocasque et Démocratie Potocasque.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu à l'entonnoir. Et
merci Denis.
Merci Denis.
Et nous vous disons au revoir. Et ainsi se termine l'entonnoir. On va enchaîner avec l'émission Un rayon de soleil de Radio Libertaire Méditerranée. Au revoir.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Tu casses les âmes côté bout, tu casses une ouest des clés, où est-ce que nos souhaits n'appellent pas mon beau bueno muso.
L'église qui avance en son soulier, comme des cadets sont. Mais les autres, ils vont.